musical artistique, animé par Sami Hilal, qui met en lumière les figures de la musique arabe, qu'il s'agisse de chanteurs, compositeurs, poètes et écrivains. Ce programme vise également à clarifier les formes musicales arabes et inclut une station qui parle de musiciennes et de musiciens les plus importants du monde arabe et leurs compositions. Trésor d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche, aux musiques apparentées. On parle de jazz, de musette, musique des Balkans, tzigane flamenco, musique klezmer, musique du Moyen-Orient et musique du monde plus largement. Des variations musicales teintées d'influences locales, surtout avec des musiciens locaux, que l'on peut entendre ici à Montréal, au Québec et ailleurs dans le monde, évidemment. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et les vendredis en soirée, sur les ondes de CIBL 101,5. Et on en profite d'ailleurs pour saluer l'émission qui va suivre, qui s'appelle Trésor d'Orient, puisque cette semaine, nous recevons, c'est la deuxième partie, en fait, c'est la suite de l'entretien que nous avons avec le groupe qui s'appelle Ancrade, et qui font de la musique maghrébine et de l'arabe tarab, c'est le nom de la musique. C'est M. Shafik El-Kourouj et Jean-Sébastien Auger, messieurs plutôt. Et on va vous proposer on va poursuivre en fait la rencontre avec eux, mais d'abord, on va les écouter, ils vont nous faire une pièce. Qu'est-ce que vous allez nous faire, messieurs?
Bon, on va vous présenter une pièce de marocaine d'un oudiste qui s'appelle Saïd Chrebi.
Bon, ben écoute, Monsieur Chrebi.
Il est fait sur un modèle d'un rythme des pièces qu'on appelle des longas.
OK, longa.
Exactement.
Vous nous expliquerez après ce que c'est. OK, on vous écoute.
Longa Nikriz.
Oui, qu'est-ce qu'un longa, dites-moi?
Les longas sont des pièces généralement faites ou bien composées sur un rythme 2 sur 4.
2, 4, OK.
Exact. Le point commun, oui?
Fox.
Fox, ça
veut
dire quoi?
C'est Fox pour nous, tout tac, tout tac. Okay. Fox, c'est mal fouf.
Je sais. Oh.
Ouais. Ouais, Fox est une danse, en fait.
Ouais, voilà.
Donc, oui, c'est ça, c'est des pièces, on va dire, le point commun, sont plus ou moins rapides par rapport à d'autres pièces.
OK. Rapide, bon, OK. Puis, ça vient d'où, vous m'avez dit? Ça vient du Maroc?
Non, celle-là, c'est un longa d'un Marocain qui l'a fait. Ça peut être un longa turc.
OK.
D'un compositeur, comme il y en a beaucoup de longas. Il y a longa Nawand, par exemple, il y a longa Nekriz. Donc, il y a le gabarit ou bien de style musical. Après, c'est, ça dépend de la composition, sur quelle gamme. Là, c'est des variations, ça dépend du compositeur aussi.
Oui, oui, oui. Et est-ce qu'elles sont toutes aussi courtes?
Généralement, oui.
Parce que j'ai presque pas eu le temps de faire les photos. Vous avez déjà terminé la pièce, j'ai oublié de revenir.
Exact. C'est une pièce de 2 minutes et quelques secondes, mais généralement, les longueurs...
Ça dépend le rythme auquel vous le faites, parce que je pense que vous l'avez fait en dedans de 2 minutes, là, cette fois-ci.
Ah, c'était moins de 2 minutes, là?
Ah oui, ouais, c'était moins de 2 minutes.
Donc, oui. Des fois, on essaie de faire des improvisations. Normalement, lorsqu'on joue sur cette pièce en show, par exemple, on se fait des improvisations. C'est-à-dire, on commence par le thème, et des fois, on allonge le morceau par une improvisation sur la gamme.
Voilà.
Improvisation libre, qui peut prendre de 2, 3, 4 minutes. Ça dépend du feeling avec le jeu.
Comme le jazz manouche et le jazz en général, de toute façon.
C'est ça.
Voilà, voilà. On va revenir à quelque chose qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, mais que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire l'origine des instruments. Donc, le oud, c'est assez répandu au Moyen-Orient. Vous me dites, c'est le luth moyen-oriental. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'instrument en tant que tel, son origine ou enfin ses utilisations, etc., ce que vous voulez?
Pour l'origine, sincèrement, je trouve comme pas mal d'histoires. Et on a des doutes par rapport à l'histoire la plus réelle, mais c'est dit que c'est 500 ans après Jésus-Christ en Perse.
OK.
Donc après, ça s'est répandu en Andalou,
au même moment, Émirat. Au même moment que Mahomet, ça. On n'est pas loin, là. 500 ans après, là, on est... Mahomet, c'est 600,
oui,
c'est ça?
Oui, précisément, si... effectivement, de 500 après Jésus-Christ jusqu'à 632, ben oui. Je pense, oui.
Ben voilà.
Exact.
Donc, OK, là, on a inventé le... à ce moment-là.
Exactement. Donc, c'est dit que c'est 500 ans après Jésus-Christ en Perse. Donc, après, il y avait beaucoup de dérivés. C'est-à-dire, il y a le oud, le principe de la coque sous forme d'une sphère avec la manche.
Ouais.
Et qu'on remarque aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments avec la coque, le même style de coque avec la manche, mais c'est différent. C'est-à-dire, les mesures sont différentes. Il y a le saz qui a la coque qui est plus petite, mais par contre, la manche, elle est si longue comme plus que, on va dire, ou bien comme la guitare. Et après, il y a beaucoup de dérivés. Mais c'est ça, ça s'est répandu dans beaucoup de pays et il y a beaucoup d'artisans qui ont innové. Donc, on prouve le oud spécialement maintenant, ça existe, mais on a d'autres instruments qui lui ressemblent, ainsi qu'on va parler du luth occidental maintenant. La forme de la coque aussi et de la manche, ils sont tous un peu pareils que le oud arabe. C'est, sauf qu'il y a une différence après qui s'est créée avec le temps, avec les artisans, avec... Ça dépend des artisans, il y en a qui cherchaient des nouvelles tonalités, mais ils ont presque la même forme de principe. C'est une sphère avec une manche, on va dire.
Votre manche, là, l'instrument que vous avez en ce moment, là, le manche, si je prends une corde, par exemple, la longueur d'octave que je vais faire, c'est quoi? C'est-à-dire, si je m'en vais do, ré, mi, fa, sol, je vais me rendre jusqu'à où?
Jusqu'à do,
donc une octave.
Par exemple, on va prendre la do, la dernière,
ouais.
Et c'est pareil pour les autres. On va commencer de do et ça finit jusqu'à...
À do.
Do, exact.
Puis en harmonique, vous le faites en harmonique. Là,
exactement.
Même. OK, donc c'est une octave par corde.
Oui.
Il y a 6 cordes. OK, ça veut dire qu'on a une... Oh, il y a beaucoup de possibilités quand même. Puis la forme de la coque, puisque vous en parliez, est-ce que... bon, celle-ci semble assez standard, mais assez grosse quand même.
Oui.
Donc ça donne, j'imagine, beaucoup plus de profondeur au son qu'une petite qui doit projeter un petit peu plus, j'imagine.
Ben, les artisans, ils continuent toujours jusqu'à aujourd'hui d'exploiter la manière de le faire, parce que c'est sous forme de lamelles en bois.
Ah oui, oui, oui.
C'est pas sous forme, on va dire, d'un gros bout de bois qu'on avait creusé.
C'est laminé, en fait, c'est ajouté.
Exactement, ouais. Exact. Mais on peut trouver des petites coques, mais le son, il est si fort, par exemple, avec la fusion des cordes aussi choisies, avec les mesures, parce qu'on a des houdes avec des manches aussi d'une longueur plus ou moins, ou bien plus longue, ou bien, on va dire, plus rétrécie.
Donc, c'est l'équilibre, c'est ça.
Exact. Comme le oud irakien, on trouve que la manche, elle est très courte. Celui-là, c'est selon le oud... Celui-là, c'est une forme selon les mesures syriennes.
OK, OK.
Mais on peut trouver des mesures à plus ou moins différentes, que ce soit par rapport au volume de la coque, à la largeur de la manche ou à la longueur aussi.
Puis typiquement, donc, vous dites, ça, c'est syrien. Puis là, chez vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on joue?
Il y a des ouds marocains, par exemple.
Mais sa particularité par rapport à celui-là?
C'est le son qui change, mais selon l'artisan. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les guitares. Tu peux choisir une guitare Tender, c'est les mêmes guitares Tender. Non, le oud, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'une industrie de oud.
OK. Il n'y en a pas un qui est pareil. Ils sont tous...
Non, c'est l'artisan. Il le fait. Il essaie. Si ça lui plaît, il essaie de respecter les mêmes mesures. Ouais. Avec, ça dépend aussi de quel bois utilisé.
Ouais, ça, c'est les sonorités. Ouais, oui.
Exactement. Ah, ouais, non, mais on ne peut pas dire qu'il y en a, par exemple. Ça, c'est Zirieb, par exemple. Les formes, ils sont pareilles. Ça a été à peu près industrialisé, le oud que j'ai. C'est-à-dire, ils essayaient de... C'est la forme, on va dire, la plus cohérente d'une qualité moyenne avec un son stable. Mais pour les autres, on trouve beaucoup d'innovation et de créativité par rapport à ça.
Ce qu'on va faire, on va écouter le oud avec une prochaine pièce, puis ensuite, on va revenir, on va parler à Jean-Sébastien de l'orchestration, justement, de tout ça, de cette musique. Mais là, on peut écouter une pièce. Qu'est-ce qu'on écouterait, en fait?
On va écouter Touta, du chanteur égyptien.
Et compositeur.
Oui, compositeur, effectivement. C'est Farid El-Atrash.
Farid El-Atrash, j'avais son nom écrit, donc ça va être facile pour moi de m'en rappeler. Alors, on écoute cette pièce.
Il est d'origine syrienne, mais il a grandi toute sa vie avec son art en Égypte.
Bon, ben voilà. Alors, on l'écoute ça. Thank you. bravo, bravo, bravo. On entendait très clairement la grosse corde là, qu'on appelle le bourdon dans un certain langage. C'est-à-dire que quand tu joues sur l'éclat, tu vas chercher la basse et on l'entendait à répétition. On appelle ça un bourdon et on l'entendait très clairement. J'ai remarqué aussi que le coup de médiator, il est très, très, très semblable à ce qu'on fait en jazz manouche. Hein? Vous êtes vraiment la main détachée vers le bas, vers l'alternance.
Exact. La manière avec laquelle on joue avec le plectre ici, ou bien le médiator en guitare manouche, il y a une ressemblance, effectivement. Mieux qu'ils sont pareils, qu'on travaille ou bien qu'on entraîne pour avoir les mêmes, c'est-à-dire en descendant ou bien en montant, mieux on travaille sur la cohérence entre les deux, mieux notre performance, elle progresse.
Et la rapidité d'exécution. Puis l'intonation aussi, je veux dire, l'articulation des notes, effectivement. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup.
Merci à toi.
On va passer à votre collègue Jean-Sébastien, qui avait une histoire fascinante là, sur l'orchestration de ces musiques. Parce exact. Que, évidemment, là, vous êtes deux. Hein? Vous êtes un oud, une percussion. Mais des fois, c'est pas toujours le cas, en fait.
Non. La plupart du temps, c'est pas le cas, en fait.
OK.
Donc, c'est ça. À l'origine, c'était beaucoup des musiques qui étaient jouées pour des fêtes ou pour célébrer des chansons traditionnelles. Et puis, au début du 20e siècle, les Européens, il y a eu un lien entre l'Europe et l'Égypte qui s'est fait. Et puis là, tout ce qui était quart de ton, ils ont dit, les Européens ont dit, nous, on peut pas jouer de ça, vous allez arrêter ça. Alors, ils ont commencé progressivement à retirer les quarts de ton. Mais ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu des instruments occidentaux qui sont rentrés dans la musique en Égypte. Je parle tout le temps de l'Égypte parce que c'est vraiment la mère patrie de la culture arabe. Un peu comme nous, on voyait la France il y a peut-être 40 ans, 50 ans. C'était vraiment le lien. Tout le monde fait référence à l'Égypte. Et puis, c'est ça, il a commencé à avoir des gros orchestres et il n'y a pas le concept d'accord, d'arrangement vraiment dans les orchestres. En Égypte, de nos jours, il y en a, mais sur les morceaux classiques, tout le monde joue la même chose. Et même pour les percussions aussi, c'est facile pour moi parce que je peux écouter le violon, je vais savoir tout de suite c'est quoi le rythme. Tout le monde joue le même rythme, tout le monde joue les mêmes notes en même temps.
Mais en tierce, en quinte, en quart, non. Toutes même tonalité, à l'unisson.
Oui, c'est ça. Ça va faire une musique très, très puissante. Puis c'est ça. Fait qu'il voulait avoir quelque chose de plus grandiose, de plus le côté spectaculaire qu'on va voir de l'orchestre sans dénaturer de la musique traditionnelle. C'est ce que moi j'en sais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont innové à gauche puis à droite, puis qui ont orchestré, puis qui ont fait des choses un peu plus grandes.
Des fioritures.
Oui, oui. Puis ce qu'on voit encore, puis ce qui est apparu au 20e siècle, je ne sais pas si c'était le cas avant, mais un peu comme à l'époque de Gene Krupa dans le swing, le band leader, c'était le drummer avec son petit nœud papillon. Alors, au départ, c'était le joueur de Rick. Tout le monde suivait le joueur de Rick. Et puis maintenant, c'est le joueur de Darbuka, habituellement, qui va être le chef d'orchestre ou le band leader.
C'est lui qui donne le rythme, en fait.
Oui, c'est ça.
Et donc, on ajoute des instruments, tout le monde joue la même chose, mais finalement, c'est l'ajout d'instruments qui va donner une couleur beaucoup plus large, un son beaucoup plus
exactement.
Profond.
Exactement, oui, c'est ça.
Puis les violons, tout ça, c'est pas traditionnel. Je veux dire, ça vient de
non,
ça
pas traditionnel. C'est pas traditionnel, mais c'est ce qui est très en vogue ces temps-ci. J'en parlais l'autre jour avec Shafik. Même au Maghreb, les gens, ce que la musique que nous on joue là, qui est nouveau pour nous, les blancs d'Amérique, eux ils l'ont entendu sur des générations et des générations. Eux ils s'intéressent à notre musique. Alors, tout ce qui va être flamenco, latin, jazz, il l'intègre, exactement. Alors, on va retrouver des musiques traditionnelles maghrébines ou traditionnelles arabes qui vont être très occidentalisées avec nos instruments. Ils vont jouer leur musique, puis ils vont respecter leur musique, mais ils vont ajouter une petite épice d'ici, là.
Oui. Bon, ben écoutez, c'est... De toute façon, la musique, ça voyage, ça se transforme, ça prend différents accents. C'est comme ici à Montréal, vous habitez Montréal, vous faites du oud, mais je veux dire, même si vous faites de la musique traditionnelle, il y a une autre couleur que si vous étiez au Maroc, c'est sûr. Mm-hmm. Ouais. C'est, les jazz manouches, c'est la même chose. Il y a une couleur très particulière ici par rapport à la France ou aux Pays-Bas, par exemple, ou à la Belgique. Alors, on va écouter une autre pièce. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire là, comme pièce cette fois-ci?
Bah, c'est une pièce de Oum Kulthoum. C'est une célèbre chanteuse.
La plus grande, la plus célèbre.
La plus célèbre, oui. Égyptienne, Oum Kulthoum. C'est ça. C'est, on va tout jouer cette pièce. Elle est différente des autres.
Mais son nom, c'est... c'est le nom. Ah oui, c'est la pièce. OK, je pensais que c'était... Je croyais que c'était le nom de la chanteuse.
Le nom de la chanson, qu'on la projette en instrumental, bien sûr, c'est Efrah Ya Kalbi. c'est-à-dire sois joyeux, mon cœur.
Bon, mais parfait. Alors, nous serons joyeux en l'écoutant. Alors, voilà. Que la joie commence. Messieurs, alors, il nous reste très peu de temps, malheureusement. On a peut-être une minute avant de passer à la prochaine pièce. Alors, vous allez déjà y penser, mais je voulais juste, en terminant, demander où est-ce qu'on peut vous entendre? Les gens de Montréal qui veulent vous entendre, où est-ce qu'ils vont?
Ce temps-ci, on a des dates qui s'en viennent bientôt au Café Gitana,
okay.
À Montréal. Et puis,
sur Saint-Denis.
Oui, exactement. Et on va être au Festival des traditions du monde de Sherbrooke au mois d'août. Et puis, la date n'est pas encore confirmée, mais suivez la programmation qui va sortir bientôt.
Est-ce que vous avez une page des médias sociaux que les gens peuvent suivre?
Oui, c'est Anram Duo. Ben, ça s'écrit A-N-G-H-A-M, qui veut dire mélodie en arabe classique.
Donc, alors, c'est merveilleux parce que vos mélodies sont vraiment quelque chose.
Et on va être aussi à Val-David, au Barry Roulant, le 27 avril, à l'auberge du Barry Roulant.
Donc, le Café Gitana, c'est quand, vous m'avez dit?
Café Gitana, on a des dates qui s'en viennent. Juste consulter notre page Facebook, les dates vont sortir.
Parfait, parfait. Bon, ben, on va écouter une dernière pièce, messieurs, et puis voilà, on va inviter évidemment les gens à vous entendre en direct.
Ça sera un samaï marocain. C'est un style des samaïs. Comme il y a des styles longa, là, c'est des styles samaïs. Donc, il y a une percussion spéciale. C'est d'un marocain qui s'appelle Ahmed El Bidawi.
On vous écoute. Merci, messieurs.
Merci.
Car c'est tout le temps que nous avons, malheureusement. Alors, les invités, Shafik El Kourouj et Jean-Sébastien Auger du groupe Engramme. Il y avait à la régie Maurice Bolduc et Daniel Labrosse. Réalisation, animation et thème d'ouverture, Marc Levasseur. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre et pour un autre épisode, en fait, de Django et compagnie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophia Zitto, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.